Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, les organismes génétiquement modifiés, OGM, suscitent la polémique selon les pays où ils sont exploités depuis leur mise sur le marché dans les années 90. Une polémique qui oppose les pro et anti-OGM à travers deux problématiques. Les potentiels risques environnementaux tout d'abord, que nous n'aborderons pas dans cette émission, mais que nous aborderons avec Michel Griffon et Georges Pelletier prochainement. Et puis, seconde problématique, les potentiels risques pour notre santé, ce que je vous propose de voir dans cette émission Éclairage. Deux parties dans cette émission. Y a-t-il des risques pour notre santé à consommer des produits génétiquement modifiés? On parle d'atteinte hépatique chez les mammifères, d'allergies. Nous verrons ce que nos deux invités en pensent. Et puis, deuxième partie dans cette émission, les médicaments issus d'OGM, utilisés depuis quelques années et qui laissent entrevoir, il faut bien le dire, de nombreux espoirs. Pour nous éclairer sur ces points, Joël Guillemin et Louis-Marie Houdebine sont avec nous en studio. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vous présente Joël Guillemin. Vous êtes pharmacien, expert pharmacotoxicologue, président du comité d'experts biotechnologie de l'ANSES, agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, également membre du Haut Conseil des biotechnologies et membre de l'Académie nationale de pharmacie. Louis-Marie Houdebine, vous êtes directeur de recherche honoraire à l'Institut national de recherche agronomique. Vous connaissez bien Joël Guillemin, puisque vous êtes vice-président du comité d'experts biotechnologie, correspondant à l'Académie d'agriculture et puis également cofondateur d'une start-up privée qui s'appelle Bioprotein Technology, spécialisée dans les protéines du lait et puis également président de l'Association française pour l'information scientifique. Alors, je vous propose de commencer par la question des potentiels à risque pour la santé. Lorsque l'on regarde les études qui ont été menées, ce que l'on retrouve dans les écrits, on voit bien que les gens ne sont pas d'accord. En 2006, par exemple, des études indiquent qu'il y aurait des risques potentiels de toxicité pour le maïs MON-863, donc maïs Monsanto. Étude invalidée par les agences de sécurité alimentaire européennes et françaises. En 2009, de nouveau, des risques de toxicité sont pointés du doigt pour 3 OGM, cette fois-ci, donc encore des OGM Monsanto. Puis de nouveau, cette étude est remise en cause. Et aujourd'hui, on recommence. Le Conseil international pour la science, dans une étude de 2011, indique que la consommation de céréales ou de soja OGM pourrait provoquer des problèmes de reins et de foie chez les mammifères. Alors, comment s'y retrouver? Je vous pose la question. Comment s'y retrouver entre ces études qui tantôt disent qu'il y a des risques potentiels, tantôt disent qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est une bataille de lobbying ou tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est toujours très difficile de savoir si les risques pour la santé sont avérés? Joël Guillemin, pour commencer.
Oui. Alors écoutez, je pense que d'abord, il faut effectivement prêter une oreille attentive aux différents échos et aux différentes analyses qui sont faites. Donc le fait qu'un certain nombre d'articles indiquent des risques potentiels, ça mérite de toute façon une écoute. Après, ce qu'il faut, c'est analyser ces risques qui sont décrits à la lumière des règles habituellement utilisées. Alors pour ce qui est spécifiquement de l'hépatotoxicité, il y a des règles qui sont relativement claires, qui ont été énoncées il y a bien des années, notamment pour évaluer la toxicité des médicaments. Et ces règles indiquent et imposent que l'on se réfère à un certain nombre de paramètres qui sont listés. Et ces paramètres, lorsqu'ils sont associés les uns avec les autres, un certain nombre de paramètres peuvent amener à conclure effectivement une hépatotoxicité. La critique que je ferai dans les articles qui ont été publiés qui mettent en avant une éventuelle hépatotoxicité, c'est que ces paramètres qui sont pris en compte ne sont pas ceux qui sont classiquement utilisés pour évaluer l'hépatotoxicité. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que l'on prend dans ces études souvent un paramètre isolé qui a été modifié, parfois de façon tout à fait anecdotique, et jusqu'à preuve du contraire, un paramètre isolé pour un toxicologue, ça n'a jamais conduit à conclure à une toxicité hépatique. Donc, il y a manifestement des interrogations, mais en tout cas, il y a de très grosses insuffisances au niveau de ces études, et à ma connaissance, je n'ai pas vu une seule étude qui permet de conclure à une hépatotoxicité potentielle à partir des études réalisées, et on aura peut-être l'occasion de revenir sur le contenu de ces études.
Alors justement, après je vais laisser la parole à Louis-Marie Houdebine. À vous entendre, on a l'impression qu'effectivement vous avez une oreille attentive, mais que ce sont des études, lorsqu'elles pointent une éventuelle toxicité, que ce sont des études partisanes.
Alors, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un esprit partisan de la part de certains auteurs, mais au-delà de cet esprit partisan, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de savoir s'il y a un bien fondé aux arguments qui sont développés. Dans ces études que vous évoquez, ce sont des études qui sont réalisées chez le rat, ce sont des études pour lesquelles on donne l'aliment pendant 90 jours. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans les critères habituels, pour évaluer une certaine sécurité, on considère qu'il doit y avoir un facteur 100 environ, entre la dose qui est habituellement donnée chez l'homme et la dose qui est donnée chez l'animal. Quand on regarde les doses qui sont données à l'animal, les doses les plus fortes, c'est-à-dire 33%, ça veut dire qu'on incorpore dans l'alimentation, dans le régime du rat, 33% de maïs, par exemple. Eh bien, ces 33%, ça correspond exactement à ce facteur 100 multiplicateur par rapport à la dose humaine. Et autre élément important, le rat est nourri pendant 90 jours. Je vous rappelle qu'un rat, ça vit 2 ans. C'est-à-dire que si on fait le rapprochement par rapport à la vie de l'homme, 3 mois de traitement chez un rat de 2 ans, ça équivaut à 10 ans à peu près de traitement de ce régime-là chez l'homme. Donc on a une dose qui est 100 fois plus forte que celle qui serait administrée à l'homme, et ceci pendant une durée correspondant à environ 10 ans. Donc on a des coefficients multiplicateurs importants et on ne voit rien. On ne voit rien en dehors des interprétations qui sont faites et qui, à mon avis, qui ne sont pas recevables.
Alors, Louis-Marie Audubon, je rebondis sur ce que vient de dire Joël Guillemin. Est-ce que, justement, on peut très facilement transposer par un coefficient multiplicateur ce qui se passe pour le rat à l'homme? Est-ce que c'est aussi simple que ça?
C'est pas très simple. C'est pas si simple que ça, non? C'est ce qu'on fait depuis quand même des dizaines et des dizaines d'années en toxicologie. Je suis pas toxicologue, hein, mais j'observe de l'extérieur et je vois bien que ces tests-là, ils ont quand même donner leurs preuves, sinon, avec tous les molécules qui nous entourent, je ne serais pas bien en point. Hein. Donc ces tests-là fonctionnent. Alors la question, évidemment, autour des 90 jours, qu'est-ce que ça signifie? Certains nous disent, mais 3 mois, c'est rien. Pour les médicaments, on ne fait pas beaucoup plus. Et si vous faites 6 mois, qui sont des temps plus longs, et officiels également, alors là, cette fois, pour des vrais tests de toxicité, ça n'a rien à voir avec les 60 ans ou 80 ans de l'homme. Alors de toute façon, on n'entre pas dans le temps de vie de l'homme.
C'est ce que pointe Greenpeace notamment. Hein. Oui, 90 jours n'est pas assez
question,
long.
La question n'est pas de comparer les temps. La question est de savoir si le test reflète une toxicité. La correspondance qui a été faite quand même depuis des dizaines d'années entre la qualité de ces tests et puis le fait que les gens ne s'intoxiquent pas, mis à part de temps en temps quelques ratés, ça marche quand même bien. De toute façon, on a trouvé dans la littérature récemment toute une série d'expériences montrant que des tests avec ces OGM en question, ceux que disent font des problèmes de reins ou je ne sais pas quoi, on les a prolongés. Il y a des expériences qui ont été faites depuis des années déjà, sur 1 an, 2 ans, plusieurs générations, des cailles, des rats, des souris, des cobayes, enfin toutes sortes d'animaux, et que les conclusions sont strictement les mêmes, on ne voit rien de plus.
Alors la question que peuvent poser vos détracteurs, c'est savoir qui fait ces études. Est-ce qu'il y a des potentiels conflits d'intérêts sur ces experts qui réalisent ces études?
Ça, c'est une bonne question à laquelle j'ai déjà répondu plusieurs fois en disant « En effet, vous pouvez toujours dire ce sont les pétitionnaires qui font les tests. » En fait, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, ils ne sont pas équipés pour faire les tests. Et on voit bien dans les dossiers, on sait qui a fait les tests. Ce sont des entreprises, des officines privées dont c'est le métier de tester tout ce qui est toxique.
Financé par qui? C'est toujours la même question.
Attendez, c'est une prestation de service, ce n'est pas financé. Vous demandez de faire une analyse toxique, on vous donne une facture et puis c'est tout. Je vois mal une entreprise privé qui vit de ça, aller bricoler ses tests pour faire plaisir à Monsanto ou je ne sais qui. Donc ces choses-là sont faites par des professionnels. Alors on pourrait toujours dire, il n'y a pas de tests faits par des laboratoires publics. On pourrait en effet mettre ça dans la main des laboratoires publics, mais ça voudrait dire qu'au niveau de l'Europe, il faudrait créer un gros organisme, quelque chose d'assez relativement important, pour faire ces tests, pas pour les refaire. Il ne faut pas les faire 2 fois, on ne va pas massacrer des rats pour rien. Franchement, je ne vois pas en quoi on aurait une meilleure sécurité à faire ça. Mais il y aurait une certaine logique politique, je le comprends.
Je vais le dire bien, vous vouliez
oui,
ajouter un point.
Oui, compléter. Bon, effectivement, je pense qu'on peut toujours s'interroger sur le financement. Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est le fait de savoir si on a les moyens de vérifier que ces études ont été faites de façon rigoureuse. Or, ce qui compte dans ces études, c'est notamment le fait qu'elles soient réalisées sous un label qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire, hein, les GLP en anglais. Et ces GLP, lorsqu'elles existent, elles permettent à n'importe quelle instance d'aller retrouver la traçabilité intégrale des données. Donc effectivement, un prestataire peut toujours être amené à éventuellement arranger une conclusion dans les examens que l'on fait, nous, de ces dossiers, parce qu'effectivement, on dit qu'on n'examine pas bien les dossiers. Bon, un dossier de toxico de 90 jours, ça fait 500, 600 pages. On va rechercher, effectivement, les données individuelles et on va au-delà des conclusions qui sont faites par le prestataire. C'est un faux procès de dire, d'autant que, c'est ce que disait Louis Marubin, il n'y a pas, en France aujourd'hui, vous n'avez pas un seul organisme public qui est en mesure de réaliser une étude selon ce format BPL. Aucune étude. aucune structure, que ce soit l'INSERM, le CNRS, l'INRAL, aucune n'est équipée pour faire ça. Donc il faudrait créer, peut-être, ça peut être une idée intéressante, mais ça n'existe pas aujourd'hui, donc il faut faire avec les organismes, avoir un minimum de confiance, et puis aller vérifier, effectivement.
Alors on va avancer, si vous voulez bien, parmi les éventuels risques que pourraient provoquer les OGM pour la santé. Et il y a un autre point qui revient, c'est la question des allergies. Est-ce que lorsqu'un produit est commercialisé, est-ce qu'il y a des études qui sont menées pour savoir après quels sont les impacts potentiels sur la santé, notamment sur la question des allergies, Louis-Marie Houdebine?
Je vais commencer par une phrase de mauvais esprit. Mais je le dis, donc ça compte pas. En fait, l'allergie, c'est un terrain idéal pour les contestataires parce que c'est un terrain flou. On ne sait jamais quand à quoi on va être allergique. Tout le monde n'est pas allergique à la même chose. On peut ne pas l'être quand on est jeune, mais quand on est vieux. Enfin bon, c'est un terrain un peu difficile, on le sait. Ce n'est pas propre aux OGM, ceci. Bon, ceci étant, il y a quand même, depuis quelques dizaines d'années, ça nous a été dit par des spécialistes qu'on a entendus à l'ANSES, on a fait d'énormes progrès sur les tests d'allergénicité. Et les OGM sont testés comme tous les autres produits, qui sont souvent des protéines, souvent les protéines qui sont allergènes. On compare les protéines auxquelles on a affaire, qui sont dans l'OGM et qui ne sont pas ailleurs, on les compare à des structures d'allergènes connues. Et il y a un répertoire de plusieurs milliers de ces protéines que l'on sait avec un fort pouvoir allergène ou un faible. Et s'il y avait un doute, on irait voir plus loin. Mais en fait, on va voir aussi plus loin en regardant s'il y a chez des patients qui ont pu consommer ceci, s'il y a des réactions de type allergique, enfin avec des immunoglobulines de type E, ça est bien connu. On regarde la sensibilité de ces protéines à des destructions par des sucs gastriques. Et quand tous ces événements-là sont réunis, on ne dit pas que c'est pas allergène, parce qu'on peut jamais le dire pour rien. Les techniques sont, je dirais, pas trop imparfaites. C'est le phénomène qui est trop complexe. On pense qu'il n'y a pas de problème. On reste vigilant. Si jamais, à la suite d'une consommation répétée, les médecins s'apercevaient qu'il y a des allergies un peu bizarres et liées à la consommation d'un OGM, il faudrait réagir, mais on ne peut pas faire plus pour le moment, certainement pas.
Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, un produit qui est commercialisé, il n'est pas forcément après testé pour voir s'il y a des risques
allergènes. Il n'est pas plus, et je dirais qu'il y a quand même un cas très précis où chez Pioneer, il y a un soja qui a été dopé avec une protéine de la noix du Brésil. On savait que la noix du Brésil contenait un allergène. Ils ont mis cette protéine parce qu'elle avait une très belle composition d'acides aminés. Manque de chance, c'était l'allergène de la noix du Brésil. L'entreprise a fait ses tests d'allergénicité. Et contrairement à ce que disent les opposants, le projet a été arrêté, le produit n'a pas été retiré, il n'a jamais été sur le marché. L'entreprise a retiré d'elle-même le projet, il n'était pas viable. Donc ce qui veut dire que ça, c'était déjà il y a 15 ans. Or, depuis, les méthodes de détection de l'allergénicité ont fait des progrès. Donc au total, on peut dire que c'est fait avec le mieux de ce qu'on peut faire, et quand même qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'un OGM soit plus allergène au départ, fondamentalement, qu'autre chose. À moins de considérer que c'est le mal absolu, mais bon.
Alors, autre point évoqué aussi par les personnes qui peuvent avoir peur de ce risque potentiel pour la santé, c'est la question des herbicides et des pesticides. À savoir que, notamment pour les plantes aux OGM, qui résistent aux herbicides, il y a des résidus d'herbicides qui peuvent demeurer sur la plante. Alors justement, quels sont les risques de toxicité de la plante pour les consommateurs si elle contient des résidus d'herbicides? Est-ce que des études ont été menées en ce sens, Joël Guillemin?
Alors ça, c'est effectivement un vaste sujet, un terrain propice à des débats. Et au cours de l'examen des dossiers, nous avons justement interrogé un certain nombre de spécialistes, puisqu'il faut savoir qu'à l'ANSES, il y a une structure, un groupe qui travaille exclusivement sur ces pesticides, sur les herbicides en particulier. Et on nous a clairement expliqué effectivement que les herbicides en question, lorsqu'ils sont utilisés sur les plantes qui ne sont pas OGM, ont fait l'objet d'études très importantes, chez l'animal notamment, avec des durées d'études qui, alors là, sont bien au-delà des 90 jours. Donc l'herbicide a été étudié. Ce qu'on appelle les métabolites, c'est-à-dire les produits de dégradation des herbicides ont également été étudiés. Et dans l'examen des dossiers que nous faisons, nous posons clairement la question en disant l'herbicide en question, qui est souvent ce qu'on appelle le glyphosate, je ne vais pas donner le nom commercial, a été administré sur la plante OGM. Qu'en est-il des études qui ont été faites sur cet herbicide et sur les produits de transformation au sein de cet OGM? Et on a à chaque fois des réponses, à savoir que des études spécifiques ont été faites sur chacun de ces constituants. Bon, il faut savoir par ailleurs que les quantités qui sont présentes au niveau des résidus sur les plantes sont en général relativement faibles et que, encore une fois, la marge de sécurité par rapport aux études qui ont été faites est relativement importante. Alors, je dirais peut-être un mot sur les aspects OGM insecticides, mais peut-être tout à l'heure, parce que ça, c'est une autre partie.
Louis-Marie Debin, justement,
vous voulez ajouter un élément. Sur la quantité d'herbicides que l'on trouve dans la plante qu'on consomme. Je ne suis pas agronome, mais on a entendu des tas de fois la manière dont on utilise ces herbicides dans le soja, dans le maïs, etc. Dans le soja, on laisse germer la plante, commencer à pousser, et quand elle est bien stabilisée, on met l'herbicide. On tue les herbes qu'on veut débarrasser. Le soja résiste. Mm-hmm. Comme il est tout seul, il pousse abondamment, il occupe le terrain et les herbes ne repoussent pas derrière parce qu'il n'y a pas de place. Le soja se touche et on n'a pas de place. Ce qui veut dire que la graine et les feuilles adultes n'ont jamais vu l'herbicide. Donc il n'y a pas d'herbicide, tout simplement. Quand Joël Guillemin dit que c'est très faible, mais sur ces plantes-là, c'est zéro, puisqu'on n'en a pas mis sur les graines. Donc il ne reste plus rien. Alors ce n'est pas vrai pour tous les herbicides utilisés sur toutes les plantes. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment ce qui arrive. Donc zéro, en plus de ça, les études sur la toxicité du glyphosate, j'ai lu quelque part que le glyphosate avait comme toxicité en DL50, c'est-à-dire le nombre... Bon, c'est une mesure qui mesure le nombre de souris qui meurent lorsqu'on donne une certaine dose du produit. C'est nettement moins toxique que l'aspirine et un petit peu moins que celle de cuisine. C'est bon.
Alors, on a bien compris quelle était votre position, monsieur Audemine.
Ben, c'est Guillemin, des faits, tout simplement.
Joël Guillemin, vous vouliez ajouter un élément.
Bon, ceci étant, je pense que c'est un sujet important. Je pense qu'il ne faut pas nier qu'effectivement, moins on aura d'herbicides dépendus et moins on en consommera. Et à mon avis, mieux on se portera. Ça, c'est une réalité. Mais après, il ne faut pas effectivement que ce soit un bouc émissaire. Alors, il y a un élément qui est intéressant. Parce que vous parliez tout à l'heure de risque. Alors, très rapidement, à partir du moment où on parle de risque, ça veut dire qu'on se préoccupe en amont d'un danger. Il n'y a pas de risque sans qu'on se préoccupe du danger. Et le danger, pour caractériser un risque, il faut d'une part le caractériser, l'identifier, enfin l'identifier et le caractériser. Et ça, c'est une étape très importante de l'évaluation des OGM. Les OGM sont évalués en prenant en compte chacun des constituants qui va rentrer dans la chaîne de fabrication de cet OGM et des procédés. Alors, je ne vais peut-être pas le temps de détailler, mais on va s'intéresser à l'organisme donneur, on va s'intéresser à l'organisme... Alors, l'organisme donneur, ça peut être une bactérie, on va s'intéresser à l'organisme receveur qui peut être le maïs, on va s'intéresser aux protéines qui sont fabriquées dans ce maïs et on va s'intéresser à la plante entière. Et dans le cadre des OGM qui sont résistants à des insectes, on a notamment la production de ce qu'on appelle une protéine BT. Et cette protéine BT, elle est largement présente dans le milieu naturel. Elle est omniprésente, elle est ubiquitaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a créé de facto sur le plan chimique. Et qui plus est, ces fameuses protéines BT sont utilisées, je ne pense pas me tromper, dans l'agriculture biologique, très largement, hein, sous forme de mélange, alors sous une forme qui est un petit peu différente, mais c'est à peu près la même structure de ces protéines BT qui est utilisée en agriculture biologique. Donc on ne peut pas d'un côté considérer que ça n'est pas nocif et considérer que ça le devient dans le cas des OGM.
Alors on a bien compris effectivement qu'il y avait... la question est délicate hein, autour des OGM, ça touche beaucoup à l'émotion. Et alors justement, juste avant de marquer une pause, juste un mot, comme vous le savez sans doute, bientôt les produits agroalimentaires qui sont vendus dans les supermarchés, enfin qui vont être vendus, vont être étiquetés lorsque ce sera le cas avec des OGM, enfin, la mention sera indiquée. Et alors justement, j'imagine que vous l'avez bien compris, l'industrie agroalimentaire va mettre en avant justement qu'il n'y a pas d'OGM, sans OGM. Ce qui sous-entend que s'il y a des OGM, c'est que c'est pas terrible. Louis-Marie Audebine.
Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans la rationalité scientifique au plus haut niveau. Mais enfin, c'est un fait, et on ne peut pas aller contre l'idée d'étiqueter. Le consommateur a le droit de savoir.
Oui, bien sûr.
D'abord, parce qu'il peut avoir une peur des OGM, il peut avoir aussi une attitude philosophique ou psychologique en disant « je ne veux pas de cette agriculture, donc je ne veux pas du produit qui sort de cette agriculture ». Bon, chacun a son opinion.
Bien sûr, oui, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est justement le fait d'étiqueter sans OGM sous-entend qu'il y a...
Mais nous sommes depuis le début dans le combat entre le bien et le mal, vous savez. Quand vous reprenez les mots qui ont été dits sur les vaccins du temps de Pasteur, quand vous reprenez toutes sortes d'événements, vous enlevez le mot vaccin, vous mettez le mot OGM, ça marche à 90%. Ce qui veut dire que c'est une attitude de la société qui a besoin de symboles du bien, du mal, etc. On a choisi d'un côté le mal, c'est l'OGM, le bien, le bio, bon... Alors vous savez, vous pouvez raisonner autour, on tourne toujours autour de cette quand même relative irrationalité. Ça va durer un certain temps, puis les gens passeront à un autre sujet, avec les mêmes raisonnements.
Joël Guillemin.
Oui, moi, bon, je crois que d'abord, il faut respecter cette liberté de choix. Bon, alors, il y a une chose, effectivement, c'est que le discours tel qu'il est formulé conduit souvent à dire une plante ou un aliment contaminé par un OGM. Hein, et pour un toxicologue, le toxicologue que je suis, la notion de contamination, c'est quand même autre chose. Une contamination, effectivement, par un polluant, par un métal lourd, par des mycotoxines qui sont cancérigènes, ça, ce sont de véritables contaminants. Bon, j'ai un petit peu de mal à comprendre encore aujourd'hui, en tant que toxicologue, ce qu'on sous-entend par cette notion de contamination, dans la mesure où, moi, les études que j'ai vues de toxicité ne mettent pas en évidence d'effets néfastes pour l'organisme. Bon, ce qui reste à faire... Donc, de toute façon, il faut respecter effectivement cette notion d'étiquetage. Le travail qui reste à faire, c'est de démontrer au fur et à mesure, avec des études, que la notion effectivement de contamination ne tient pas. Et c'est par la persuasion et l'expérimentation qu'on arrivera peut-être à faire évoluer effectivement les esprits.
Alors, je vous propose de marquer une pause. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, je vous propose de vous intéresser à la question des OGM dans les médicaments. À tout de suite.
« Jean Delumeau, Pierre-Sylvain Filioza, Paul Bernard, Jean Favier, Michel Zinc et Roland Recht, en entretien ou en séance, ces académiciens passionnés d'hellénisme, de médiévisme, d'archéologie, d'indianisme, de sinologie, d'orientalisme, d'égyptologie et d'histoire de l'art, partagent leur savoir. Retrouvez les membres de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres sur Canal Académie.
Suite de notre émission éclairage consacrée aux OGM et aux questions de santé et OGM, alors dans cette deuxième partie d'émission, j'avais dit qu'on s'intéresserait aux médicaments issus d'OGM. Alors c'est peut-être quelque chose d'assez méconnu par le grand public, des OGM qui sont utilisés déjà depuis 30 ans pour fabriquer de nombreux médicaments, notamment liés aux hormones de croissance, le PO, l'insuline aussi, donc depuis 30 ans, et puis des protéines. Pourquoi des OGM médicaments? Peut-être Joël Guillemin pour commencer et Louis-Marie Audubine après.
Oui, alors d'abord, ce que vous avez dit en préambule est extrêmement important, c'est-à-dire cette date de 1982, ça veut dire qu'effectivement, il y a bien longtemps qu'on utilise le génie génétique au service de la santé de l'homme et ça n'a pas posé de problème particulier. Alors, je pense qu'on reviendra sur les différences qui peuvent exister entre le sujet précédent, les plantes OGM et les médicaments OGM. Donc, comme vous le rappeliez, effectivement, il y a eu le premier qui est l'insuline et depuis, on a utilisé largement des bactéries, des levures, des cellules de mammifères. Tout ce petit monde a été manipulé au sens positif du terme, de façon effectivement à ce qu'on insère des gènes qui vont ensuite produire des protéines d'intérêt chez l'homme. Donc c'est une technique qui date, hein, puisque effectivement vous l'avez rappelé, ça fait 30 ans. Ça n'a pas posé de problème particulier. Ça a continué et on est aujourd'hui en pleine révolution thérapeutique, hein, puisque les anticorps monoclonaux constituent aujourd'hui la majorité des médicaments qui sont destinés à être mis sur le marché par l'industrie pharmaceutique. Donc on a une véritable révolution industrielle avec un changement de conception et ces médicaments qui sont souvent destinés à des maladies graves comme le cancer, comme la polyarthrite rhumatoïde, donnent des résultats tout à fait étonnants. Donc on a là vraiment un sujet tout à fait porteur. Bon, je serais peut-être amené à reparler un petit peu plus tard de ce médicament qui a été autorisé en 2006, qui a été effectivement aussi une révolution, qui est l'Atrin, qui est produit par le lait de chèvre. Donc on parlera du lait et là, c'est le premier, c'est une différence, parce qu'on avait jusqu'à maintenant des médicaments produits par des cellules, des bactéries et des levures. Là, on a quelque chose qui est produit par un animal entier. Et en 2006, donc, l'Agence européenne a donné pour la première fois une autorisation de mise sur le marché à un médicament qui est destiné aux thromboses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a calculé qu'une chèvre, la production d'une chèvre sur un an représente, si je ne m'abuse, 90 000 prélèvements sanguins chez l'homme. Donc on remplace la production d'une chèvre sur un an équivaut à 90 000 prélèvements sanguins chez les donneurs. Quand on connaît les problèmes aujourd'hui de la récolte du sang et des donneurs, ça me semble relativement intéressant d'avoir ce type de production.
Alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir, et peut-être que vous avez la réponse, pourquoi ces médicaments issus d'OGM se développent et ne posent pas de problème alors que la question des OGM dans les produits commercialisés, eux, suscite la polémique. Louis-Marie Audubine.
Bon, quand c'est du médicament, les gens pensent à leur santé, alors que les OGM, ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant pour leur santé. Il faut bien le dire. En fait, les OGM plantes, je veux dire.
Oui.
Donc les médicaments, ils se disent, même si des fois les animaux souffrent un peu au passage, ce qui est vrai avec certaines protéines, on a besoin de médicaments. Donc là, je dirais même que parfois, des associations de patients sont de véritables... Enfin, un peu poussent au crime, parce qu'ils nous poussent à dire « Mais allez-y, allez-y, nous attendons vos produits. » Il faut quand même suivre les règles. Pourquoi ça se fait par des procédés nouveaux? Alors, il faut bien comprendre que les bactéries peuvent faire des quantités importantes de protéines à pas cher, mais on ne peut pas faire toutes les protéines avec. On ne peut pas faire de l'EPO, on ne peut pas faire des anticorps monoclonaux, et tout un tas d'autres choses. Parce que la bactérie, elle ne sait pas faire ces protéines-là. Et puis, il y a une question de quantité quand même. C'est, par exemple, l'albumine, je crois que le marché actuel, l'albumine humaine, c'est 50 tonnes. Et tout ceci est obtenu à partir de prélèvements sanguins et autrefois de placenta. Le marché sera de 100 tonnes dans quelques décennies. Comment voulez-vous faire ça avec des cellules en culture? Même des bactéries, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été utilisé. Il y en a dans le lait d'animaux, il y en a dans du riz récemment. Les Chinois ont fait ça et ils en ont dans du riz des quantités relativement élevées. Là, on peut résoudre le problème de cette manière-là.
Donc ce sont des molécules qui, de toute façon, n'auraient pas pu être produites
voilà,
sans cette technique.
Voilà.
Joël Guillemin.
Oui, alors par rapport aux arguments qu'a développé Louis-Marie, bon, j'en rajouterai un, me semble-t-il, qui est tout à fait fondé, c'est le fait de dire que pour le médicament, on travaille, si je puis dire, majoritairement dans ce qu'on appelle le confiné, c'est-à-dire en circuit fermé. Le médicament, il est produit en usine, dans des fermenteurs, et la problématique de la dissémination du risque pour l'environnement, elle est quasiment nulle ou elle est parfaitement maîtrisée. Et ce qui n'est pas admis ou moins admis dans le cadre des plantes, et en particulier des aliments, c'est les cultures en plein champ, avec le risque effectivement pour l'environnement. Donc on n'est pas tout à fait sur le même registre. On a dans un cas quelque chose qu'on maîtrise un petit peu plus, en termes de rejet, de contamination en tout cas pour l'environnement, et dans l'autre c'est un petit peu plus large. Donc je pense que c'est un des arguments qui fait que le médicament a posé moins de problèmes.
Mais il y a aussi, j'imagine, des plantes génétiquement modifiées qui ont servi
absolument
à la fabrication de
traitements. Absolument, et ça c'était très contesté, puisqu'il y a eu des arrachages de plantes qui faisaient une protéine médicament contre la mucoviscidose. Alors, le risque n'était pas grand, mais quand même, à partir du moment où vous avez une protéine qui est dans des champs, le fait qu'on absorbe cette protéine ne peut rien nous faire, parce que si vous absorbez une protéine, vous la digérez, vous mangez une hormone, vous mettez de l'hormone de croissance, vous pouvez la manger à petite cuillère, c'est un petit peu cher, mais ça ne vous fera rien. Par contre, ce qui a été évoqué, ce qui est vrai, c'est que si des poussières venant de la plante, comme du maïs ou ce que vous voulez, contenant ces molécules humaines, on peut développer des réactions allergiques, ou plus exactement des réactions de rejet, faire des sensibilisations, et avoir des anticorps contre ses propres protéines. Bon, c'est un cas limite.
On revient à la question des allergies qui a été posée.
Voilà. Il reste quand même que cultiver en plein champ des plantes qui contiennent des molécules médicaments, c'est un peu limite. Alors, il y a des situations, ça ne devrait pas être dans les serres, parce qu'à ce moment-là, c'est pas rentable. Il faut des volumes plus grands. Probablement que ce ne serait pas à faire sur des plantes classiques qu'on laisse ouvertes à tout. Ça pourrait être plutôt, comme il y a plusieurs cas qui se développent en ce moment, plusieurs techniques, sur des tabacs par exemple, qu'on cultive dans des endroits où il n'y a pas de tabac.
Pour l'hémoglobine?
Pour l'hémoglobine, ça ne marche pas bien, parce qu'on ne produit pas vraiment, mais d'autres protéines de ce genre, des enzymes ou même des hormones. Le faire sur des tabacs que l'on infecte avec un virus de tabac, qui produit énormément de protéines dans le tabac, et le lendemain, le tabac est mort parce qu'il est tué par le virus. On récupère cette masse de plantes et on le purifie. Il n'y a aucune contamination là. Ça se fait en Allemagne, il y en a aussi au Canada, des choses de ce genre. Donc on peut le faire, mais l'avenir là, pour les plantes, pour les animaux, ça ne pose pas de problème. Des lapins, des vaches, c'est enfermé, on a la maîtrise totale, évidemment. Pour les plantes, peut-être qu'un avenir serait de faire des algues, des micro-algues dans des bassins, parce que là, ça produit des lentilles, ça se développe. Est-ce que ce sera rentable? Mais c'est aussi bien que des plantes. Ce sont des plantes, après tout. Et là, on a la maîtrise totale. C'est des bassins, on contrôle tout. Et ça pousse jour et nuit, il suffit d'éclairer. Et ça consomme du gaz carbonique, c'est très bien.
Et des plantes, comme vous le disiez, qui pourraient s'autodétruire après avoir fourni les protéines?
Dans le cas du tabac, c'est ça, oui. Donc là, il y a une maîtrise. Il y a plusieurs systèmes. Ça ne se vend toujours pas très bien, ces médicaments sortis des plantes et des animaux. Et c'est très curieux.
Et vous n'expliquez pas?
J'ai des explications.
Et vous ne voulez pas nous les donner?
Si, je vous les donner. Mais ce ne sont que des suppositions. Il y en a une, c'est que quand on parlait avec les industriels, ils étaient très enthousiastes il y a quelques années. Puis comme ça a traîné, ils l'étaient moins, parce qu'ils disaient, bon, la rentabilité de ça, ça ne vient pas. Puis finalement, ils disent, oui, mais vous savez, la connotation OGM, ce n'est pas terrible pour quelqu'un qui vend quelque chose. C'est triste, mais ça existe. Je vois autre chose qui est encore plus triste, que je ressens, c'est que quand vous avez des produits qui se vendent, comme le PO, comme le facteur 7, qui sont préparés par des cultures de cellules de mammifères, et qui se vendent $1 million le gramme, si ce n'est plus, et que vous avez des animaux, j'en connais, des lapines en particulier, qui ont 3-4 grammes par litre, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas très pressés de voir leur monopole s'effondrer.
Donc il y a l'aspect économique, de rentabilité.
Alors je dis que ce n'est pas très bien, parce que naturellement ce n'est pas éthique, dans la mesure où il y a des gens qui attendent ces médicaments. Je ne certifie pas que c'est ça, je ne lis pas dans la conscience des gens, mais je suis obligé de dire, il n'y a pas de problème technique limitant maintenant. Pour les protéines en général, dans certains cas particuliers, ça pose des problèmes. Mais les problèmes techniques sont résolus maintenant.
Alors, Joël Guillemin, sur ce point, le pharmacien que vous êtes.
Oui, alors, bon, d'abord, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et je pense que ce qu'il faut retirer, alors, il y a un certain nombre de problèmes. L'enseignement qu'il faut retirer, me semble-t-il, du médicament par rapport à la notion d'OGM, c'est le fait que la technique du génie génétique, elle est parfaitement maîtrisée, elle est admise. Et donc, on ne doit pas diaboliser, parce que dans le débat sur les OGM, il y a quand même de la diabolisation. Il y a eu de la diabolisation de la technique et du fait qu'on manipulait. Or, la notion de manipulation génétique n'est pas en soi, effectivement, un péché mortel. Et on a des exemples, notamment avec le médicament, qui montrent depuis plus de 30 ans, ce sont des pratiques et des techniques qui sont utilisées qui n'ont pas posé de problème. Alors, il faut bien entendu s'interroger et documenter un peu mieux les autres points. Et en particulier, on voyait la limite des plantes médicaments. Donc là, il y a des problèmes, effectivement, éventuellement pour l'environnement. Ceci étant, je lisais un article il y a quelque temps sur quelque chose qui traîne. Alors, c'est peut-être pour ça, ça marche peut-être pas très bien, mais je crois que c'est la cérébroglucosidase qui est déficitaire chez quelques sujets qui ont la maladie de Gaucher, si je ne m'abuse, et où je lisais, alors je n'ai pas été vérifier les sources, mais que, alors jusqu'à maintenant, on prélève ça à partir de placenta. Hein, et pour avoir une dose de cette enzyme en question, il faut 2000 placentas, avec des risques de contamination virale. Eh bien, dans l'article en question, il disait qu'une feuille de tabac était capable de produire une dose. Donc, une feuille de tabac équivaut à 2000 placentas. Bon, si c'est vérifié et si ces projets-là sont effectivement viables sur le plan sociologique et économique, je pense que ça vaut le détour.
Alors, on va avancer, si vous voulez bien, sur notre émission. Il y a un sujet qui vous est cher à tous les deux, notamment à Louis-Marie Oudoubine, c'est la question du lait. Je le disais en présentant cette émission, en vous présentant que vous êtes cofondateur d'une start-up privée qui s'appelle Bioprotéine Technology, spécialisée justement dans les protéines de lait. En quoi le lait, justement, pourrait être intéressant dans ce domaine-là?
Il suffit de reprendre une expression bien connue, une mère de lait. C'est qu'en effet, l'impression que c'est que le lait, quand ça arrive, il faut nourrir des petits et que, bon, c'est un don que la mère fait à ses petits. C'est impressionnant. Et si on maîtrise la mécanique et qu'on réussit à faire exprimer un gène dans le lait, il va y en avoir des quantités. C'est facile de traire, même du lapine finalement. Donc, on a des quantités relativement élevées, relativement peu de frais. Alors là, à ce moment-là, le lait sert de véhicule, rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au lait, on jette tout ce qu'il y a dans le lait, sauf la molécule en question. Ce qui impose des purifications. Et justement, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, les industriels disent « Ah oui, mais dans la préparation d'un médicament, la purification représente un coût majeur. » Ce qui est vrai. Mais vous l'avez toujours d'un milieu de culture, vous l'avez d'une plante, vous l'avez de tout. C'est toujours difficile à faire, les rendements des fois parfois mauvais, des fois on abîme la protéine, et puis il faut que ce soit très pur, et ça coûte cher. Alors le lait, à ce moment-là, est un véhicule pour tirer une molécule pure. Qu'on va donc injecter, comme le PO, des anticorps monoclonaux, etc. Tout ceci existe véritablement. Il y a aussi une autre chose qu'on peut faire, c'est dans le lait, c'est de s'en servir comme véhicule pour porter des molécules qu'on va absorber par voie orale et qui ne sont donc pas véritablement des médicaments. Et je pense à deux protéines qui sont très abondantes dans le lait de femme, qui sont le lysozyme et le lactoférine, et qui sont des protéines antibactériennes. Et le nourrisson se protège contre les infections bactériennes.
Avec l'allaitement maternel.
Et le hasard fait que dans le lait de vache qu'on consomme le plus, il n'y en a pratiquement pas, ni de l'une ni de l'autre. Alors l'idée est venue de faire par les vaches et puis par des chèvres du lysozyme humain et de la lactoférine humaine. Et il y en a en Chine.
Donc vous voulez materniser le lait de vache?
Alors,
vous
voulez materniser, c'est un mot qui va loin parce qu'on laisse quand même 95% des protéines qui sont toujours là. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, on ne purifierait pas forcément les protéines. Il n'y a pas forcément besoin. On enlèverait la majeure partie des protéines, qu'on appelle les caséines, et il resterait ce qu'on appelle le lactosérum, qu'on pourrait lyophiliser, ça ferait des tablettes très enrichies dans cette protéine, et qu'on pourrait avaler dans le cas d'infection. Quand il y a une épidémie quelque part, on pourrait avaler, croquer ces petites tablettes de protéines, et se protéger de manière efficace.
Joël Guillemin, sur cette question, puisque vous avez abordé à un moment donné la question des chèvres.
Des chèvres, tout à fait. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, le lait comme support de production, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'effectivement, il y en a des quantités relativement importantes et puis qu'on peut effectivement stabuler les animaux. Bon, je rejoins sur ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, le lactoférine et l'isozyme, on a démontré des propriétés antibactériennes tout à fait importantes. Donc, quand on voit les conséquences en termes sanitaires, des infections, des diarrhées et les conséquences en termes de létalité, de mortalité chez les enfants. Bon, je pense que ça, ce sont des projets qui sont intéressants. Alors, ça reste effectivement à valider à la fois sur le plan économique et sur le plan, je dirais, de la sécurité, parce qu'il y a quand même des aspects qu'il faudrait évoquer, mais je pense que l'idée me paraît effectivement séduisante.
Alors, Louis-Marie Dubin, je vous laisse la parole tout de suite. Auparavant, oui. Moi, j'ai une question toute bête à vous poser. C'est puisqu'on a parlé à un moment donné aussi des expérimentations animales, que vous parliez de chèvres ou que vous parliez de vaches, est-ce qu'il y a un risque pour ces animaux, en fait?
Alors, il arrive, il y a un certain nombre de cas. La protéine en question, qui pour l'homme, et qui est une protéine humaine, se trouve dans un mammifère, donc elle a toutes les chances de fonctionner. Et on a eu, il y a plusieurs cas, nous on en a un, l'érythropoïétine, qu'on a fait dans de lait de lapine. Il y avait une petite fuite d'expression venant d'autres organes, qui en général ne gênent pas. Là, il y en avait des très petites quantités, mais l'érythropoïétine est efficace à des doses extrêmement faibles. Et nos animaux étaient malades, c'est inimaginable. On a arrêté cette expérience. Et il y a d'autres cas, j'en connais quelques autres. Nous, on l'a publié. La plupart des gens n'ont pas publié les cas ratés. Mais il y en aura forcément de temps en temps. Mais ça n'invalide pas une technique. C'est au cas par cas que ça se fait.
Alors, vous vouliez ajouter un autre
point ?
Oui,
je voulais ajouter quelque chose parce que, à propos des chèvres qui produisent du lysozyme, je tiens des Américains qui ont ce projet. Ils ont essayé de faire des essais chez le porc. Alors, ils ont constaté qu'en effet, les porcs se lait qui avalaient ce lait, plutôt que le lait normal, avaient des changements de flore intestinale tout à fait intéressants et qu'un certain nombre de bactéries désagréables étaient moins abondantes, ce qui était attendu. Ils ont voulu faire des essais chez l'homme, évidemment. Ils ont essayé en Afrique, en Amérique du Sud, je ne sais pas, dans des endroits où il y avait vraiment des problèmes. Ils ont eu, eux, des problèmes d'ONG qui leur sont tombés dessus en disant « Vous n'avez pas le droit de faire des expériences chez l'homme, etc. » Enfin, du lait de chèvre dans lequel il y a une protéine, du lait de femme, bien contrôlé, surveillé par des comités. Enfin, ils n'ont pas fait ça à la sauvage. Ils ont eu des grandes difficultés à le faire. Je crois qu'ils progressent mal à cause de ça, pour le passage à l'homme. Parce qu'il y a des moments, il faut savoir quand même franchir le pas.
Parce qu'en faisant des raccourcis, on pourrait penser qu'on fait fabriquer à la chèvre du lait de femme.
Non, c'est pas près d'arriver. C'est pas près d'arriver. Puis, c'est qu'à moitié nécessaire. Enfin, je veux dire, quand passer du lait de femme au lait de vache, en termes de purement nutritionnel, on s'en tire pas mal quand même. Enfin, je veux dire, les poudres maintenant sont bien au point. Par contre, des molécules particulières, j'en ai cité deux, mais il y en a encore d'autres. Les rajouter ou se servir de ces extraits de lait pour empêcher les infections, je pense quand même que c'est assez incontestable. Et les risques sont quand même très faibles.
Alors, encore une minute avant de terminer cette émission, très rapidement, parmi les espoirs que pourraient porter ces OGM en matière de santé, c'est ce que l'on peut lire aussi sur le site de l'Académie nationale de pharmacie, c'est, et on s'écarte pour le coup des médicaments, c'est la préparation d'organes animaux pour la transplantation à l'homme. Alors j'aimerais que vous m'en disiez juste un mot pour terminer cette émission. Louis-Marie Audebine, peut-être.
Oui, c'est un vieux projet qui a 100 ans. Il y a 100 ans, on a commencé à faire des greffes d'animaux sur des singes et puis même sur l'homme, et ça a été chirurgicalement réussi dans bien des cas, mais il y a eu des rejets extrêmement forts. Alors, quand les immunosuppresseurs sont arrivés, on a dit, ça y est, on va gagner. Mais on n'a rien gagné du tout, parce que les rejets ne sont pas les mêmes mécanismes entre des allogreffes et des xénogreffes. Et là, les biologistes sont tombés dans des problèmes très difficiles. Alors, à l'heure actuelle, il y a deux démarches qui consistent à enlever les antigènes qui provoquent le rejet de l'organe de porc et de mettre dans l'organe de porc des protéines qui vont calmer le mécanisme de rejet de l'hôte, en l'occurrence l'homme. Ça fait des progrès, mais à chaque fois qu'une étape est franchie, on a l'impression qu'on retombe dans un autre problème.
Parce qu'il existe déjà des transplantations, et à ce moment-là, effectivement, on prend un traitement à vie anti-rejet. Là, ce serait justement de ne plus prendre de traitement anti-rejet.
Alors, il faudrait qu'on réussisse à vaincre tous ces rejets, mais ils ne sont pas encore tout à fait vaincus. Alors, on annonce quand même des greffes de cellules nerveuses, du système nerveux central, pour les maladies de Parkinson ou des choses comme ça, où là, les rejets seraient moindres parce que le système immunitaire du cerveau n'est pas très présent. Et ensuite de ça, parce qu'on ne transplanterait que des cellules et non pas des organes. Et qu'il y a moins de rejets, on le sait, dans ces cas-là. Ce qui pourrait arriver quand même, ce serait des greffes de cœur, des greffes de rein, des greffes de pancréas éventuellement, des greffes de foie, probablement pas, parce que le foie a tellement de fonctions qu'entre le porc et l'homme, ce ne serait pas forcément compatible. Il y a toujours des espoirs, mais on a l'impression que malgré les progrès, ça reste... Enfin, personne ne peut dire quand ça arrivera. Mais personne ne peut dire que ça n'arrivera pas.
Joël Guillemin, le mot de la fin.
Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas une compétence particulière. Ce qui est vrai, c'est que tout à l'heure, j'évoquais la chèvre avec ce médicament qui a eu son autorisation de mise sur le marché en 2006. Et donc, si effectivement, on arrive à réduire le nombre de donneurs de sang de façon à avoir un médicament qu'on va pouvoir largement distribuer. Pour les greffes, effectivement, aujourd'hui, ce sont essentiellement des donneurs humains. Et on sait que là, il y a des carences. Donc, la finalité, c'est effectivement d'essayer de greffer davantage d'organes. Et pour ce faire, on a effectivement besoin d'avoir le recours à l'animal. Donc il y a bien des années effectivement qu'on parle de l'utilisation d'organes animaux, ça pose un certain nombre de problèmes, mais ça montre bien que devant il y a des échecs, c'est comme pour la thérapie génique avec les bébés bulles, même s'il y a eu quelques échecs, je pense que le jeu en vaut la chandelle, et donc encore une fois il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain, et je parlais tout à l'heure de diabolisation au niveau du génie génétique, je pense qu'on a eu ce type de comportement dans le cadre des OGM en général. Je pense qu'il faut revenir à la raison. Il y a des questions à se poser, il y a des études à mener, il y a de la raison à apporter, mais je pense que c'est un thème qu'il faut absolument développer et il ne faut pas se braquer contre les OGM en général.
Eh bien, merci à vous, Joël Guillemin, Louis-Marie Audebine, d'être venus nous voir au studio et puis peut-être à bientôt pour une prochaine émission. Merci de nous avoir donné ces informations pour cette émission Éclairage. Merci.
Merci.